Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
L'un des héritages les plus inhabituels de la Seconde Guerre mondiale a été les sectes du cargo, comme on les appelle dans le Pacifique Sud. La plupart des peuples autochtones des îles, allant de l'Australie jusqu'à l'Indonésie, ont été exposés pour la première fois à la civilisation moderne par l'intermédiaire des forces armées alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine en particulier utilisait souvent des îles isolées qui n'avaient été habitées que par des indigènes locaux. Ils ont utilisé ces îles comme des pistes d'atterrissage temporaires et des dépôts d'approvisionnement. Les hommes blancs sont venus dans ces îles avec des cargaisons, puis ils sont partis aussi vite qu'ils étaient venus. Les populations tribales n'avaient pas le temps d'apprendre les modes de civilisation. La civilisation a tout simplement plongé. Elle est tombée sur eux sans avertir. Ils ont vu la haute technologie de près. Ces avions arrivaient du ciel, atterrissaient dans la jungle, laissaient leur chargement, puis décollaient à nouveau. Les indigènes de l'île ont vu des briquets, et ils les ont vus produire du feu par magie. Alors ils ont pensé que c'était miraculeux. Ils ont vu de grosses machines repousser des forêts pour construire des pistes d'atterrissage pour ces gros avions. Pour la première fois, ils ont vu des jeeps, des armes modernes, des réfrigérateurs, des radios, des outils électriques et de nombreuses variétés de vêtements et de nourriture. En fait, ils étaient fascinés par tout cela. Ils en tirèrent la conclusion, quelque peu naturellement, que les hommes blancs étaient des dieux et qu'ils arrivaient du ciel avec toutes ces choses. Leur conclusion était que les dieux étaient des êtres qui vous apportaient beaucoup de choses. À la fin de la guerre, les armées étant parties, les tribus ont construit des sanctuaires pour les dieux de la cargaison. Leurs tabernacles étaient des répliques parfaites d'avions, de tours de contrôle, de hangars en bambou ou en matériel naturel tissé. Ils ressemblaient à l'original, mais n'étaient bons que pour le culte. Sur certaines des îles les plus reculées, les sectes de cargaison continuent de prospérer aujourd'hui, et si vous allez à certains de ces endroits, vous constaterez que plusieurs d'entre eux ont personnifié tous les Américains en une seule divinité, et le nom de ce dieu est Tom Navy. Il prie pour que la sainte marchandise tombe du ciel. Il vénère les reliques religieuses telles que les briquets Zippo, les appareils de photo, les lunettes, les stylos à billes, les écrous, les boulons, etc. Alors que la civilisation a commencé à pénétrer dans ces îles éloignées où existent des sectes de cargaison, leur fascination pour le fret n'a pas diminué. Les missionnaires qui ont été envoyés dans ces régions pour prêcher l'évangile constatent que les personnes impliquées dans les sectes de cargaison leur ont d'abord réservé un accueil chaleureux, car ils pensaient que c'était la seconde venue des dieux de la cargaison. Le problème est qu'ils cherchent la cargaison, pas l'évangile. Les missionnaires constatent qu'ils sont tellement imprégnés par le matérialisme qu'ils ne comprennent même pas qu'ils ne peuvent pas facilement recevoir l'évangile. Et il est devenu très difficile de convaincre ces peuples, au culte de frais, de la vérité salvatrice. Je regarde ce genre de phénomène religieux, étrange et bizarre, et je vois dans le christianisme contemporain un parallèle tout à fait intéressant. On peut l'appeler le mouvement parole-foi, le mouvement de la foi, la formule de la foi, la parole de la foi, l'hyper-foi, la confession positive, nommez-le et réclamez-le, le mouvement de la prospérité, la santé et la richesse, ou quoi que ce soit d'autre, c'est la même chose. C'est en quelque sorte un nouveau mouvement des sectes de cargo, où Dieu est celui qui déverse les friandises et leurs produits consommables, matérialistes, externes et tangibles sur son peuple. Ces enseignants contemporains enseignent franchement que la prière est un moyen de se satisfaire. La prière est un outil par lequel vous obtenez ce que vous voulez. Et principalement, ce que vous voulez, c'est du matériel. C'est du consommable. C'est quelque chose que vous pouvez tenir dans votre main. C'est de l'argent. Ce sont des vêtements, des voitures, des maisons et d'autres choses matérielles. Il n'y a pas dans mon esprit de différence entre les cultures bizarres et étranges du cargo du Pacifique Sud et la prédication de la prospérité contemporaine qui réduit Dieu à une sorte de serviteur qui, à la demande de tous ceux qui lui sont associés, doit livrer la cargaison. C'est courant aujourd'hui. Il y a une telle incompréhension flagrante, à cause de tout ce qu'est la prière, que cela doit être corrigé. Maintenant, cela m'amène à 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 11 et 12, dans la vie de prière de Paul. Sa vie de prière est absolument différente de l'approche de Dieu que je viens de décrire. Paul ne prie pas pour les choses matérielles, il ne prie pas pour les choses consommables. Ses prières sont beaucoup plus profondes que cela. Écoutez comment il prie. 2 Thessaloniciens 1:11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de matériel dans cette prière. Il n'y a rien de consommable dans cette prière. Il n'y a rien de gratifiant à propos de cette prière. Le Dieu que Paul prie n'est pas un Dieu de la cargaison. Il n'apporte pas de radio, d'appareil de photo, de téléviseur, de jumelles et de briquets Zippo. Ce n'est pas ce que Paul prie. Paul a compris la prière pour ce qu'elle est vraiment, au niveau profond que Dieu voulait que ce soit. Alors que nous regardons ces deux versets, nous avons intitulé cette étude de 2 semaines « Prier pour les bonnes choses ». La vraie prière, c'est apprendre à penser comme Dieu le fait, apprendre à désirer les désirs de Dieu, apprendre à aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Et plus la vie de prière devient profonde, et plus elle s'aligne avec la volonté de Dieu, les désirs de Dieu, l'amour de Dieu et la détestation de ce que Dieu déteste, moins les bagatelles l'occuperont, moins les choses deviendront manifestes, et plus votre prière sera saisissante, et les affirmations de ces réalités spirituelles que vous connaissez sont proches du cœur de Dieu. Vous prierez comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La prière nous met en relation avec Dieu, cela nous élève vers lui. Cela nous permet de rester en contact avec Dieu, et avec ce lien, avec une Bible ouverte et un cœur ouvert, nous apprenons à écouter avant de parler. Je trouve dans ma vie personnelle que les expériences de prière les plus riches, les plus pures, les plus vraies et les plus ciblées étaient quand je priais devant ma Bible ouverte parce que la volonté de Dieu s'est révélée, le cœur de Dieu se manifeste, les désirs de Dieu se manifestent, ce qu'il aime est révélé, ce qu'il déteste est révélé, et cela se traduit par mon affirmation et ma prière. Cela devient un mode de vie. Nous vivons sur deux niveaux. Vous pouvez être impliqué dans toutes les routines qui prennent votre temps, et vous devez peut-être donner une certaine quantité de votre conscience à ces routines. Mais l'une des grandes réalités de l'esprit humain par la création de Dieu, c'est qu'il peut traiter plus d'une chose à la fois. Il a la capacité de partager son attention, et tandis que nous avons tous affaire à un niveau tangible et transitoire de la vie externe dans laquelle nous sommes pris, il y a en même temps une conscience beaucoup plus profonde que cela. C'était Paul. Paul pouvait enseigner, prêcher, planifier, écrire, travailler, exhorter, discipliner, voyager, souffrir, mais en même temps, sous un autre niveau, prier à un niveau qui montrait à quel point il comprenait la pensée de Dieu. Si dans votre vie, la prière est réduite à une période identifiable dans laquelle vous verbalisez des choses à Dieu, ou une période pendant laquelle vous arrêtez tout le reste et vous mettez dans une position unique et concentrez votre esprit sur Dieu de manière silencieuse, ceux-ci, tout en étant importants, ne peuvent pas être la totalité de votre vie de prière. Votre vie de prière est simplement une façon de vivre, et cela continue tout le temps. Vos activités externes, manifestes et évidentes, exigent une certaine attention, mais il y a ce niveau de compréhension plus profond qui se produit tout le temps en vous et qui est une communion incessante avec le Dieu vivant. C'était tellement vrai de la vie de Paul que, périodiquement, à mesure que vous lisez ces épîtres, ce niveau inférieur ressort. On pourrait presque dire que c'est comme un volcan. Il y a un mince vernis, une mince croûte à la surface de la terre, mais sous la terre se trouve ce chaudron bouillant de gaz et de feu, et de temps en temps, il éclate à travers la surface, et la lave chaude coule. C'était donc dans le cœur de Paul. Il avait un cœur chaud pour Dieu. Il avait une relation explosive avec Dieu. Et au cours de son écriture ou de sa prédication, de son enseignement, de sa discipline, de ses voyages, de sa planification, de sa préparation, dans la chaleur de sa communion avec Dieu, le haut du volcan explose. Et ainsi nous lisons dans ses épîtres que, de temps en temps, l'une de ses prières explose à la surface dans un volcan de la chaleur de son cœur. C'est le cas dans les versets 11 et 12. Nous arrivons au niveau profond de Paul. Il ne nous donne pas une explication de la théologie. Il ne nous emmène pas dans la progression logique d'une doctrine. Il ne nous donne aucune raison pour une certaine exhortation. Il ne définit pas pour nous un problème dans l'Église dans lequel il veut donner une solution. Il n'attaque pas un problème. Il ne traite pas de fausses doctrines ou de faux enseignements. Plutôt, tout à coup, nous allons au-delà de tout cela, et cette explosion chaude de sa vie de prière éclate. Et nous notons le mot « toujours », car il semble être toujours là. Chaque fois qu'il dit « nous prions pour vous », il dit aussi « toujours ». Nous devons poser la question « comment pouvez-vous faire cela ?» Et la réponse à la question est qu'il vit sur un autre niveau, en communion avec Dieu, Paul, qui vit au niveau profond où la prière existe vraiment, où la prière est une préoccupation sans fin, connaît très bien Dieu. À ce niveau, il comprend la volonté de Dieu, car elle lui a été révélée dans les Écritures. Il ressent ce que Dieu ressent. Il souffre là où Dieu souffre. Il se réjouit là où Dieu se réjouit. Il comprend ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce que Dieu aime, ce que Dieu déteste. Cela fait partie de la maturité spirituelle de le savoir. Et par conséquent, ses prières ne sont jamais superficielles, et elles ne sont jamais égoïstes, et elles ne sont jamais myopes ou aveugles. Elles sont toujours très profondes, très spirituelles. Elles tendent toujours à embrasser des choses qui sont totalement inconsommables, des choses que vous ne pouvez pas toucher et ressentir. Il ne prie pas pour les choses physiques. Et donc, je vous soumets que c'est un bon point dans notre étude de la parole de Dieu, pour nous rappeler que beaucoup d'entre nous, même la plupart, prient pour les mauvaises choses, et Paul priait pour les bonnes choses. Et je suppose que pour certains d'entre nous, la prière est un temps périodique durant lequel nous arrêtons tout et nous nous concentrons sur la verbalisation de nos demandes plutôt que sur un mode de vie incessant. La maturité spirituelle est donc marquée par ces deux choses. Elle est marquée par une vie de prière incessante qui se déroule profondément sous la surface des choses normales. Et c'est la prière qui cherche les bonnes choses, car elle connaît la pensée, le cœur et la volonté de Dieu. Maintenant, en regardant à nouveau ces versets, je vous rappelle que la dernière fois que nous avons examiné le premier point, nous avons déterminé que c'est la ressource elle-même. Quand Paul voulait quelque chose pour lui-même, quand il voulait quelque chose pour les personnes qu'il aimait et servait, la ressource était la prière. Donc le verset 11, « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. » Ce niveau sous-jacent de communion consciente avec Dieu a toujours été inhérent à ses prières pour ses églises. Il voyait la prière comme un moyen de parvenir à ses fins spirituelles. Pour Paul et pour tout chrétien mature, la prière est une condition. La prière est une condition. C'est un état d'esprit. C'est une condition permanente ou un état d'esprit permanent par lequel les promesses et les buts de Dieu, le bien-être spirituel de son peuple, l'avancement de son évangile et la croissance de son Église sont la passion du croyant. C'est ce genre de condition. C'est vivre dans une condition où vous êtes consommé avec les promesses et les desseins de Dieu, avec le bien-être de son peuple, l'avancée de son évangile et la croissance de son Église. Et les choses qui vous concernent sont les choses qui le concernent. Cela aligne votre cœur avec Dieu. Et nous avons vu quelque chose à propos de la ressource de prière la dernière fois, à propos de la façon dont cela s'aligne avec la souveraineté de Dieu. Passons aux requêtes. C'est le point 2 de ce texte. Qu'est-ce qu'il demande? L'alignement avec Dieu, la connaissance de l'Esprit et le cœur de Dieu. C'est ce que demande Paul. Verset 11. « Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. » Ces trois choses. Rien d'égoïste, rien de superficiel, rien d'extérieur, rien de temporel, rien de consommable. C'est un trésor spirituel riche pour lequel il prie. Tout d'abord, la dignité. La dignité, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. C'est une requête large, qui englobe vraiment le caractère chrétien. Je prie pour que Dieu vous rende digne. En d'autres termes, que Dieu vous permette de mériter le nom que vous portez. Si vous continuez à dire que vous appartenez à Christ et que Christ est en vous, alors vous devez mériter ce titre. Il utilise le pronom possessif « notre Dieu », juste pour rappeler à ses lecteurs et à nous que Dieu n'est pas un ogre éloigné, que Dieu n'est pas quelqu'un à craindre, que Dieu ne peut pas être touché par nos infirmités, mais à travers, bien sûr, le Christ. Il a démontré qu'il est un Dieu tendre et attentionné. Donc, dans un sens intime, il identifie Dieu comme notre Dieu, et il dit que notre Dieu veut vous rendre ou vous compter digne. Ce verbe peut aller dans les deux sens. S'il vous rend digne, il vous comptera digne. S'il vous compte digne, ce sera parce qu'il vous a rendu digne. Mais notre Dieu veut vous rendre digne pour que vous puissiez être considéré digne de votre appel. Prenez cette petite déclaration, votre appel, et laissez-moi vous aider à voir ce que cela signifie. Chaque fois que vous voyez le terme « appel », « votre appel », dans les épîtres du Nouveau Testament, il fait référence au salut. Ce n'est pas ce genre d'appel que Jésus utiliserait dans les Évangiles, où il dit « beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ». C'est juste un appel évangélique où les pécheurs sont appelés à se repentir, les non-croyants sont appelés à être sauvés. Ce n'est pas la façon dont il est utilisé dans les épîtres. Il est utilisé parce que les théologiens appellent un appel efficace, un appel valable, au salut. Il est utilisé à cette époque où Dieu vous sauve. Votre appel est le moment où Dieu vous a appelé, la réalité de votre salut. Vous avez été appelé à Christ par Dieu. Vous avez été attiré par le salut. C'est ce sens. C'est le sens du chapitre 8 de Romains où il est dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc vous avez la prédestination, l'appel, la justification, la gloire, et c'est le flux du salut. Les prédestinés sont appelés au salut, ils sont déclarés justes, et ils sont destinés pour la gloire. Vous voyez la même chose dans Romains 11, 29. De tels appels de Dieu sont irrévocables. Ces appels sont irrévocables. Ils sont permanents. Dans Galates 1, 15, Paul parle de son salut et l'appelle le moment où il a été appelé. 1 Corinthiens 1, 26 parle du salut comme d'une vocation. C'est donc le terme qui signifie un appel efficace au salut. Vous voyez la même chose dans 1 Thessaloniciens 2, 12. Afin que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est un appel au royaume. C'est un appel à la gloire. C'est un appel au salut. Cela pourrait être dans les mêmes termes que Jésus a utilisés quand il a parlé du dessein du Père. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est l'essence de cet appel. Alors il dit « Regardez, vous avez été appelés au salut, vous avez été appelés à Dieu, appelés à Christ, appelés à porter le nom de Christ. Vous avez été appelés à être identifiés comme le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu. » Maintenant il dit « Je prie pour que notre Dieu vous compte comme digne de cet appel, pour que vous puissiez porter ce nom. Il veut que vous soyez digne. » Ce mot évoque un certain nombre de choses. Dans Romains 1, 32, la Bible dit que les impies sont dignes de la mort. Ils sont indignes du salut, et cela nous concerne tous. Aucun de nous n'est digne du salut. Donc, nous pouvons faire un simple petit point. Dieu sauve les indignes. Dieu, par sa grâce, sauve les indignes. Nous pouvons ajouter cette phrase. Dieu rend alors l'indigne digne. À l'église de Sardes, dans Apocalypse 3 et au verset 4, le Seigneur a dit « Parce qu'ils en sont dignes. Dieu sauve les indignes et rend les indignes dignes. Mais au-delà de cela, Dieu veut qu'ils deviennent encore plus dignes. Il veut augmenter cela au sens pratique. Comment puis-je comprendre cela? Avant de devenir chrétien, vous êtes indigne. Quand vous êtes devenu chrétien, vous êtes devenu digne dans un sens positionnel. C'est-à-dire que, tout comme vous êtes devenu juste en revêtant la justice de Christ, vous êtes devenu digne par cette justice. En d'autres termes, Dieu vous a rendu digne quand vous étiez indigne, et il l'a fait par grâce. Vous ne l'avez pas gagné. Vous ne pouviez pas le gagner. Vous ne pouviez rien faire pour être digne du salut. Vous ne pouviez rien faire qui soit digne de le gagner. Vous ne pouviez rien faire qui soit digne de le garder. Mais Dieu vous donne une dignité en Christ. Quand il vous déclare juste et vous enveloppe dans la justice de Christ, cela vous rend digne. Donc, dans la position que vous occupez devant Dieu, vous êtes digne. Mais dans le sens pratique, Paul dit « Je prie pour que Dieu vous rende digne. » En d'autres termes, qu'il augmente cette dignité. Vous voyez une chose similaire au verset 5 du chapitre 1, à savoir comment Dieu, par ses jugements et ses châtiments, vous rend digne du royaume pour lequel vous souffrez. Dieu veut que vous soyez plus digne. Il veut que vous méritiez de porter son nom. Il ne veut pas que vous ayez honte de son nom, honte de son Église. Donc, il veut vous rendre plus digne, augmenter votre dignité, et il le fait à travers la souffrance, chapitre 1, verset 5. Il apporte la souffrance dans votre vie qui, en quelque sorte, enlève la chair, vous conduit à lui et apporte la maturité spirituelle. Et ici, dans une note positive, Paul prie pour que Dieu continue ce processus, même si cela peut avoir besoin d'être travaillé, pour que Dieu vous rende digne de votre appel. Vous êtes déjà en position. Vous devez être de plus en plus digne dans la pratique. Un jour, dans le futur, vous serez complètement digne, car vous serez parfaitement saint. Mais en attendant, nous devons être dignes de porter le nom de Christ. Les chrétiens sont rendus dignes comme ils sont rendus justes, mais ils doivent devenir plus justes, ils doivent devenir plus dignes. La question de vivre avec cette dignité divine interne est stimulée par la main de jugement de Dieu et stimulée par l'Esprit de Dieu lorsqu'il se déplace dans nos vies à travers la parole et son application. Donc, il dit que je veux que vous soyez plus dignes. Je pense que c'est une prière que chaque pasteur devrait faire, que chaque pasteur prie. Je veux que mon peuple soit digne de porter le nom du Christ. Je ne veux pas que mon peuple attire des reproches à Christ. Je ne veux pas que mon peuple porte le déshonneur à son nom. Je ne veux pas qu'il soit la cause, comme les Juifs, de la dépréciation de Dieu. Vous vous rappelez qu'il a dit que le nom de Dieu était mal considéré à cause de leur comportement dans Romains 2. Et il y avait des personnes dans l'église de Thessalonique qui n'agissaient pas d'une manière très acceptable. Ils n'étaient pas vraiment dignes de porter le nom. Regardez le chapitre 3, verset 6. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Il y a des frères qui sont dans une situation indisciplinée et qui ne suivent pas la tradition, c'est-à-dire l'Écriture, la parole, l'enseignement que vous recevez de nous. » Verset 11. « Ils mènent une vie indisciplinée, ils ne travaillent pas, et ils agissent comme des personnes occupées. Restez loin de ces personnes. Il y avait des personnes indignes. Dignes, oui, à cause de leur position, couverts par la justice du Christ. Mais dans leur vie pratique, ils n'étaient pas dignes d'être appelés chrétiens. Vous savez, je crois que parfois Dieu tue juste ces personnes, les emmène au paradis. Ils ne sont pas dignes de porter son nom sur la terre. On lui fait des reproches. Alors il prie pour que ces personnes marchent d'une manière digne du nom qu'il porte. Vous avez une énorme responsabilité. Vous avez un énorme privilège, un énorme devoir, et moi aussi, si nous portons le nom de chrétien, pour vivre d'une manière digne de porter ce nom. Regardez Éphésiens, et je vous montrerai comment cette même pensée est un thème récurrent de la signification des écrits de Paul. Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous devez marcher d'une manière digne. Et il le définit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ainsi que vous devez marcher. C'est ce que fait un chrétien digne. Un chrétien digne est humble et doux, patient et tolérant, aimant et cherchant l'unité. Regardez le chapitre 1 de Philippiens. Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Restez fermes dans un seul esprit, luttant ensemble pour la foi de l'évangile, jamais alarmés par vos adversaires, souffrant volontairement. C'est comme cela que tu es digne. Vous marchez d'une manière digne lorsque vous poursuivez l'unité, lorsque vous êtes fermes, lorsque vous faites confiance à Dieu au milieu de la difficulté, lorsque vous souffrez pour lui. Colossiens 1:10 dit la même chose. C'est ce que nous prions, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Comment? en lui étant entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce. Verset 12. Qu'est-ce qu'une vie digne? C'est une vie qui plaît au Seigneur à tous égards. C'est une vie qui porte ses fruits dans toutes les bonnes œuvres, augmente les connaissances, se renforce avec le pouvoir. C'est une vie qui est reconnaissante. C'est une vie digne. Et puis, comme je l'ai noté plus tôt, 1 Thessaloniciens 2:12 dit la même chose. Marchez d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et comment allez-vous marcher? Paul a dit que nous devons marcher ainsi, au verset 10, d'une façon sainte, juste et irréprochable. Donc, vous pouvez voir que c'est un thème sur lequel Paul aime revenir, cette idée de dignité, et il dit, « Je prie pour que Dieu augmente votre dignité de porter le nom de son Fils. » En résumé, le Nouveau Testament serait quelque chose comme ceci, une marche digne, et je vous donnerai une liste, ne l'écrivez pas, écoutez. Dans les Écritures, dans plusieurs passages, une marche digne est une marche dans l'humilité, une marche dans la pureté, une marche dans le contentement, une marche par la foi, une marche dans la justice, une marche avec douceur, une marche avec force, une marche dans la patience, une marche dans l'amour, dans la reconnaissance, dans la lumière, dans la connaissance, dans la sagesse, dans la vérité et dans la fécondité. En résumé, si vous dites que Christ et vous êtes apparentés, 1 Jean 2:6, alors vous devriez marcher comme il a marché. Ceci est donc une demande complète. Ils prient pour que Dieu permette aux chrétiens de vivre leur dignité spirituelle. Ils sont dignes en vertu de la justice du Christ qui leur est imputée. Un jour, ils seront dignes de marcher avec lui en blanc, car tous les péchés auront disparu, et en attendant, ils voudraient que leur dignité augmente pour englober toute la vie. C'est une prière pour le caractère chrétien, la vertu chrétienne. La deuxième requête est vraiment pour la bonté. Pour la bonté, il formule tout simplement sa prière en ces mots. Que notre Dieu puisse accomplir chaque désir de bonté. Je voudrais même appeler ce point l'accomplissement. Il prie que Dieu leur donne la satisfaction de l'accomplissement. Le mot plérosé signifie accomplir. Dieu, s'il te plaît, accomplis dans leur vie tout ce qu'ils désirent. Quand ce qu'ils désirent est bon selon ta définition, c'est sa prière. Que Dieu remplisse tous leurs désirs pour ce qui est bon. Où trouvez-vous ce qui est bon? Jésus a dit qu'il y a un seul bon, et c'est Dieu. Donc, celui qui a le bon ordre du jour, c'est Dieu. Et il dit simplement, « Mon Dieu, je veux que tu leur donnes tout ce qu'ils désirent, aussi longtemps que, selon ta définition, c'est bon. C'est un point puissant. Je veux qu'ils connaissent l'accomplissement. Je veux que leurs prières soient exaucées. Je veux que leurs rêves deviennent réalité, que leurs désirs s'accomplissent. » Mais seulement s'ils sont bons selon ta définition. De retour dans les psaumes, nous avons un petit aperçu de ce genre de prière. Psaume 21. Je vais juste vous lire les versets 2 et 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Pause. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. C'est la clé. Tu lui as donné ce qu'il voulait. Tu lui as donné ce qu'il demandait parce que c'était bon, parce que tu as vu que c'était bon. Psaume 37. Je sais que vous vous en souvenez. C'est un texte très familier et utile. Écoutez le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Attendez une minute. Dieu vous donnera-t-il tout ce que votre cœur désire? Oui, si vous vous réjouissez en lui. Le fait, c'est que si vous vous réjouissez en lui, alors vos désirs sont ses désirs. Il est le premier. Et ainsi, quand vous priez, il vous donnera ce pourquoi vous priez, car cela correspond à son désir. Lorsque vous vous réjouissez dans le Seigneur, votre désir sera bon, et Dieu accomplira ce que vous lui demandez. Une autre note dans les psaumes, et dans le psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Pourquoi le psalmiste est si sûr de lui en disant « Dieu va faire ce qu'il y a sur mon agenda » La réponse est que le psaume avait déjà montré que son agenda était celui de Dieu. Jacques dit dans son épître, « Regardez, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez selon vos propres convoitises. Vous demandez une satisfaction personnelle. Paul dit, « Dieu, donne-leur tout ce que leur cœur désire. Quand ce que leur cœur désire est quoi ? Bon, selon ta définition, c'est une vie épanouie. Et je sais que la plupart des personnes supposent, probablement, que Dieu est réticent à rendre quelqu'un heureux, que Dieu est satisfait en étant un trouble-fête cosmique, que Dieu sent qu'il doit pleuvoir un peu sur la vie de chacun pour leur rappeler qu'il contrôle tout, que Dieu veut laisser son peuple vivre une sorte de misère permanente pour rappeler qu'il est rigoureux et exigeant. Ce n'est pas vraiment le cas. Dieu veut vous donner le désir de votre cœur. Quand vous allez à lui dans la prière, il veut vous donner le désir de votre cœur, à condition que le désir de votre cœur soit un désir que vous avez appris en écoutant son esprit et en connaissant sa volonté. Le psaume 145:16 dit « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. C'est Dieu. Dieu est généreux et aimable. Il aspire à donner à ses enfants ce qu'il désire. Mais il désire ardemment qu'il désire, avec ardeur, sa volonté. Et il sait que quand ils l'obtiendront, cela portera l'adoration et la louange. Le psaume 90:14 dit ceci « Quand je donne ce que tu demandes, tu me chanteras une chanson. » Alors pourquoi Paul prie-t-il ? Que faut-il faire pour prier ? Pour quelle chose devriez-vous prier dans votre propre vie, la vie de ceux que vous aimez, les personnes de votre Église ? Vous priez pour leur dignité, vous priez pour que leur vertu chrétienne grandisse, vous priez pour que leur caractère chrétien s'améliore, et puis vous priez pour leur accomplissement. Que Dieu fasse dans leur vie l'accomplissement de toutes les bonnes choses qu'ils désirent ardemment, car ils savent que Dieu les désire aussi. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, alors écoutez et cherchez à connaître la pensée de Dieu et le cœur de Dieu, et priez pour ce qui est bon selon sa définition, et il vous le donnera. La troisième requête, priez pour leur puissance. Il veut qu'ils soient un peuple digne, un peuple accompli et un peuple puissant. Priez pour que notre Dieu accomplisse. Nous emprunterons ce verbe-là, parce que je pense que cela est destiné à être ainsi. Le travail de la foi avec puissance. Que notre Dieu récompense vos efforts avec puissance. Ils étaient déjà impliqués dans l'œuvre de la foi, dans 1 Thessaloniciens 1:3. Il a dit, « Je remercie déjà Dieu pour votre travail de foi. Écoutez, il ne peut rien y avoir de mieux qu'une foi qui fonctionne, n'est-ce pas ? La foi sans les œuvres est quoi ? Elle est morte. » Jacques 2, 17-26 est explicite en disant que « Il en est ainsi de la foi. » Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » En d'autres termes, comment vas-tu me montrer ta foi ? Je ne peux pas le voir. La seule façon de le montrer, c'est par vos œuvres. Et il continue à décrire cela. « La foi marche, dit-il. Tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ils ont donc eu une vraie foi salvatrice, et cela s'est manifesté, cela a fonctionné, cela a produit des fruits. Il dit, « Je remercie Dieu pour votre travail de foi. » Mais ce qu'il demande maintenant, c'est, « Je demande à Dieu de rendre ce travail de foi puissant, pas seulement minimal, mais maximal. » Il a compris le salut par la grâce à travers la foi seulement, mais il a aussi compris qu'un salut par la grâce, à travers la foi seule, produisait des œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Il a compris cela. La vraie foi qui sauve va produire des œuvres. Mais il a dit, « Je veux que ces œuvres soient puissantes. C'est l'accomplissement. C'est vraiment ce qu'il faut. » Vous dites, « Au fait, comment cela peut-il arriver ? Comment ce genre de choses puissantes se passe-t-il ? » Vous pouvez retourner dans Éphésiens 3. Et vous y trouverez un indice. Éphésiens 3:15. Paul prie et identifie Dieu au verset 14 et 15. Et ensuite au verset 16, voici sa demande. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est la clé. Le pouvoir de Dieu est libéré, selon ce que je viens de vous lire, par l'esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Vous dites, comment cela se passe-t-il ? En laissant la parole du Christ habiter en vous richement, jusqu'à ce que la parole de Dieu domine votre cœur. Il dit, « Je veux que ton œuvre de foi soit puissante. Je veux que tes aspirations à la bonté soient accomplies, et je veux que ta vie soit digne de porter le nom du Christ. C'est la bonne chose pour laquelle prier, pour votre conjoint, vos enfants, vos amis, les personnes que vous aimez, pour votre Église. Mais nous sommes coincés comme un disque rayé sur les choses temporelles. Et enfin, la raison, la ressource pour ses désirs pour cette Église, la prière, les requêtes, la dignité, l'accomplissement, la puissance. Maintenant la raison, c'est si fondamental, si important. Verset 12. « Afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Voici la raison. Le but n'est pas pour vous, le but est pour le Seigneur, afin que, ou, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Il y a ce petit pronom possessif, notre, à nouveau. C'est parler de l'intimité avec laquelle nous sommes liés à Christ, tout comme nous sommes à Dieu. Voici le but le plus élevé, le motif le plus élevé, la plus grande raison pour laquelle vous devez devenir ainsi, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. C'est pour sa gloire. Laissez-moi le décomposer un instant. Voyez cette phrase. Le nom de notre Seigneur. C'est un titre de l'Ancien Testament pour Dieu. Vous le voyez dans Genèse 4, 26, Exode 33, 19, Deutéronome 5, 11, Ésaïe 42, 8, Ésaïe 56, 6. C'est un titre pour Dieu. Et ici nous lisons le nom de notre Seigneur Jésus, qui identifie clairement et sans équivoque Jésus comme Dieu, Jéhovah Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. Le terme « nom » signifie tout ce qu'il est, la totalité du Seigneur. Tout ce qu'est le Seigneur serait une autre façon de le dire d'une manière différente. Alors il dit « tout ce que je veux en vous, afin que tout ce qu'est le Seigneur Jésus puisse être honoré, exalté, élevé. » Vous vous rappelez dans Daniel 9, quand Daniel priait pour son peuple. Il a prié, et prié tout au long de ce merveilleux chapitre pour les besoins de son peuple. Puis à la fin de cette section, il explique la raison. « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué. Pourquoi ? Parce que la ville et le peuple portent ton nom. Ta réputation est en jeu, mon Dieu, s'il te plaît, fais-le. Ton nom est en jeu. Ta réputation est en jeu. Vous le savez aussi bien que moi, que le premier prétexte que les hommes donnent pour ne pas vouloir devenir chrétiens, c'est qu'ils diront, « Bien, je connais des chrétiens, et ils sont, fondamentalement, remplissez le blanc, hypocrites. » C'est toujours une excuse que les personnes utilisent. Et c'est ce que disait Daniel. « Seigneur, regarde, tu dois faire quelque chose ici parce que ton nom est en jeu. » Ta réputation est en jeu dans la vie de ton peuple. Il porte ton nom. C'est ce que dit Paul. Mon Dieu, je te demande de faire ceci. Ton nom est en jeu. La gloire de ton nom est en jeu. Je veux que ceux qui portent le nom du Seigneur Jésus lui fassent honneur. Il dit que ceci est une chose merveilleuse, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en toi. Waouh ! Quelle pensée ! Que Dieu le Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié en moi. Ce vase de terre, cette humble argile, cette chair pécheresse. Mais c'est cela. De même que sa gloire pourrait briller sur le visage de Moïse, elle peut briller à travers moi. C'est pourquoi Jésus a dit « Que ta lumière brille devant les hommes, pour qu'ils puissent voir tes bonnes œuvres et glorifier ton Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, nous devons vivre pour que Dieu soit glorifié. Il veut être glorifié en vous, dit Paul. Ô Dieu, fais ceci pour que le Seigneur Jésus soit glorifié en ces personnes, et ces personnes en lui. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est réciproque. S'il est glorifié à travers vous, autrement dit, s'il est honoré à travers vous, alors il vous honorera, il vous exaltera, il vous soulèvera. Vous dites, est-ce que c'est la gloire éternelle ? Est-ce que cela parle peut-être aussi de cette vie ? Dieu est très aimable. Il nous donne le privilège de glorifier Christ en nous, et il dit ensuite, et il vous glorifiera aussi. Il vous honorera. Bien sûr, à l'avenir, il nous glorifiera. Mais même maintenant, je crois que notre Dieu élèvera ceux qui glorifient son nom. Il les élèvera avec bénédiction. Quelle pensée formidable ! Je prie, et voici la raison, que le Seigneur Jésus, dans la plénitude de qui il est, puisse être glorifié en vous. Et à son tour, s'il est glorifié en vous, il vous exaltera. Il vous honorera. il vous élèvera. C'est un principe spirituel très simple. Vous honorez Christ, Christ vous honore. Le désir de Paul ne s'exprime pas mieux que dans 2 Corinthiens 8, 23, par Paul lui-même. Écoutez cela. Il dit, « Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre. » Il dit cela en parlant de la communauté chrétienne. « Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. » C'est sensationnel. Ceux qui sont nos frères et messagers des églises, ceux qui servent, sont une gloire pour le Christ. Ils sont un honneur pour lui. N'est-ce pas votre but? Être un honneur pour Christ, et à son tour, il vous honorera. Il le fera. Je pense que William Barclay l'a exprimé quand il a dit « La gloire d'un enseignant réside dans les érudits qu'il produit. La gloire d'un parent réside dans les enfants qu'il a engendrés. La gloire d'un maître réside dans ses disciples. Et c'est la même chose avec Christ. Sa gloire réside dans ceux qui lui appartiennent. Peut-il y avoir des privilèges et peut-il y avoir une responsabilité plus grande que cela? Il nous glorifie parce que nous le glorifions. Un jour, cela arrivera, mais je pense que c'est possible dès à présent. Il soulèvera celui qui le soulève. Et puis il termine en disant, « Et tout cela est conforme à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie, mon Dieu, parce que tu es le seul à pouvoir le faire, et tu dois le faire par grâce, car ces personnes ne le méritent pas. Ils ne méritent pas d'être dignes, ils ne méritent pas que leurs désirs soient exaucés, et ils ne méritent certainement pas de servir avec pouvoir. Mais je veux que tu le fasses, je veux que tu le fasses par la grâce, même si elles ne le méritent pas, pour que tu puisses obtenir la gloire. C'est ce qu'il dit, fais-le par la grâce. Écoutez, tout ce qui vous vient dans votre vie chrétienne, c'est par la grâce, tout comme votre salut. Et ensuite, cette phrase à la fin, la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous regardez la langue d'origine et que vous essayez de comprendre ce que l'auteur essaie vraiment de dire avec ces deux termes, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez trouver deux points de vue tout aussi défendables. Premièrement, il parle d'une seule personne, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Il appelle en réalité Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ou il appelle le Seigneur Jésus-Christ Dieu, et il n'y a qu'une personne. Vous pouvez aussi les voir comme deux personnes, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Dans les deux cas, il affirme la divinité du Christ, car, dans le premier cas, il parle d'une personne, Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le cas numéro 2, il parle de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Numéro 1, c'est une personne. Numéro 2, ce sont deux personnes égales. Donc, dans tous les cas, encore une fois, il y a l'affirmation de la divinité du Christ. Et il dépend totalement du Dieu souverain, du Christ souverain, pour dispenser cette réponse à ses prières, par la grâce, parce que nous ne le méritons pas. Alors, que recherchez-vous dans vos prières? Que demandez-vous? J'espère que vous n'êtes pas dans le culte de la cargaison. Qu'est-ce que vous cherchez? Que recherchez-vous? Que voulez-vous? Priez-vous pour vos propres désirs, pour ceux de tout le monde? Vous priez pour les bonnes choses, j'espère. Et peut-être que si vous parliez moins, et que vous écoutiez plus, vous apprendriez ce qu'il y a de mieux. Merci, Père, pour ce grand texte qui nous dirige vers une compréhension correcte de la prière. Puisse-t-il trouver sa place dans le tissu même de nos vies? Que nous puissions vivre, comme Paul, avec cette lave chaude, comme une communion zélée, avec toi, à ce niveau plus profond, en priant toujours selon ta volonté. Nous voulons prier dans l'Esprit, et nous savons que l'Esprit prie toujours selon ta volonté. Père, nous prions pour notre Église, que tu nous trouves dignes de ton appel, que tu exauces tous les désirs de bonté, et que tu accomplisses l'œuvre de la foi avec un grand pouvoir pour que Jésus-Christ soit glorifié en nous. Par conséquent, nous serons honorés par toi, et nous demandons cela non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es un Dieu de grâce, et que nous voulons t'honorer. Au nom de ton Fils. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.